L'industrie de la mode, en effet, serait l'une des plus polluantes au monde et en particulier le secteur de la fast fashion, la mode jetable à petit prix dont les impacts sociaux et environnementaux seraient assez catastrophiques. À force de produire toujours plus et toujours plus vite, l'industrie du textile aurait atteint un bilan écologique particulièrement déplorable. Dans ce contexte, une mode éthique est-elle possible et quelles sont les alternatives à mettre en place? Eh bien, c'est le dossier de la Terre au carré et on en parle avec mes invités dans un instant. Vous pouvez bien sûr leur poser toutes vos questions 01 45 20 47000, franceinter.fr et les réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert ensemble dans un instant.
Oui, avec les chasseurs indispensables à l'environnement, ils le disent, je leur ai donné la parole.
Dans la deuxième demi-heure, le feuilleton de la semaine signé Caroline Gillet avec le portrait d'un jeune engagé pour l'environnement. Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Olivier, un auditeur spécialiste des chauves-souris qui va nous présenter un projet autour de ces animaux pour trouver des alternatives aux produits phytosanitaires. Et puis enfin, notre invitée découverte est la navigatrice Marie Tabarly, qui parcourt le monde à bord du voilier de son père, Eric, pour une expédition autour du développement durable. Voilà donc pour le sommaire de cette émission, réalisée par Valérie Ayestaraï, avec à la technique Selim Guéribi et Maxime Ingrand.
Mathieu Vidard, la Terre au carré, sur France Inter.
Pendant deux semaines, ils ont bloqué la capitale Dakar. Tous ces gens en colère sont les petites mains du textile mondial. Ce sont eux qui fabriquent les vêtements pour toutes les marques de la planète, ou presque. S'ils sont sortis de leurs ateliers, c'est pour demander de meilleures rémunérations.
Dhaka, capitale du Bangladesh, c'était l'année dernière. On s'intéresse aujourd'hui à l'industrie du textile avec mes deux invités, la sociologue de l'environnement Majdouline Zbay et Naïla Ajaltouni. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Merci d'être là. Majdouline Zbay, vous avez publié aux éditions Rue de l'Échiquier une mode éthique est-elle possible? Et Naïla Ajaltouni, vous êtes coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette. De quoi s'occupe exactement cette ONG?
C'est une ONG qui regroupe en fait une vingtaine d'autres ONG, de syndicats, d'organisations de défense des consommateurs qui défend le respect des droits humains au travail dans l'industrie mondialisée de l'habillement et du textile.
Donc vous êtes amenée à travailler aussi avec les industriels de ce secteur directement?
Disons que c'est notre cible d'interpellation, davantage que des personnes avec qui on collabore, parce qu'on a plutôt ce rôle d'interpellation effectivement des multinationales pour faire en sorte que leur modèle évolue et ça ne se fait pas sans mal.
Ouais. Majdouline Zbay, votre enquête donc commence par décrire un véritable malaise en racontant comment l'évolution justement de l'industrie textile nous a progressivement conduit à ce prêt-à-porter jetable, cette fast fashion. C'est vraiment cette mode du vêtement très peu cher et qu'on peut changer comme ça autant qu'on veut quasiment.
Oui, en fait, l'industrie de la mode a poussé au bout, j'allais dire, le modèle de l'économie linéaire, produire toujours plus vite, consommer toujours plus, jeter toujours plus. Elle l'a poussé au bout et en plus dans un contexte d'une industrie qui est mondialisée, dont on ne peut pas réguler les impacts environnementaux, et avec un levier fantastique pour faire en sorte que les gens aient toujours envie d'en acheter plus, qui sont les tendances, la mode, l'impact, l'influence qu'on peut avoir en donnant envie aux gens d'être mieux dans leur peau, etc. Donc, et le marketing et la communication. Donc du coup, oui, effectivement, aujourd'hui, c'est une des industries qui rend le plus visible ce que produit un modèle économique destructeur et gaspilleur.
On a des chiffres justement sur notre consommation de vêtements aujourd'hui par rapport aux décennies précédentes et qui nous montreraient précisément cette surabondance aujourd'hui dans nos achats.
Alors au niveau mondial, on sait que on a doublé depuis 2000 la production mondiale de vêtements. Mmh. Au niveau français, il y a quelque chose qui est en train de naître, qui peut susciter aussi une forme d'optimisme chez nous, c'est que on est entré dans une ère de déconsommation puisque on commence à acheter moins de vêtements neufs aujourd'hui qu'hier, et c'est les chiffres de l'Institut français de la mode qui le montrent très bien. Et le marché de l'habillement, par contre, ça c'est moins bonne nouvelle du point de vue économique, c'est que le marché de l'habillement a perdu 15% de sa valeur en l'espace d'une décennie. Et donc, du coup, on voit finalement que le modèle est en train de s'infléchir. Ceci dit, c'est l'ampleur des impacts environnementaux, l'ampleur de ce que ça suscite comme pollution et comme destruction et comme aussi non-respect des droits humains au niveau mondial fait que ça n'est pas suffisant, cette inflexion. Il faut aller beaucoup plus loin.
Naïla Ajaltouni, justement, c'est ça dont on parle finalement lorsqu'on évoque la mode éthique, c'est l'impact social et environnemental. L'un ne va pas sans l'autre finalement.
Oui, l'un ne va pas sans l'autre parce que effectivement, depuis notamment les années 90, de manière manifeste, c'est une industrie entièrement et éminemment mondialisée. Il n'y a pas plus mondialisé que le jean comme vêtement, depuis la culture de la fibre jusqu'à sa mise en rayon. Et à chaque étape de la production, on a des impacts sociaux et environnementaux qui sont aussi tus ou cachés, en tout cas pas suffisamment visibles, que des accidents très malheureux comme le Rana Plaza ont contribué à rendre visibles.
Donc ça, c'est le Bangladesh justement. Là, on entendait un extrait de l'année dernière, mais là, c'était un événement qui s'est produit en 2013, en avril, avec l'effondrement de cet immeuble dans lequel travaillaient 3000 personnes et il y a eu plus de 1200 morts.
Absolument,
hein. Et ils travaillaient pour le textile occidental.
Voilà, des grandes marques comme Mango, Auchan, CEA, Benetton, dont on a retrouvé des étiquettes dans les décombres. Et donc, effectivement, en fait, la fast fashion, elle est arrivée, donc cette mode jetable à petit prix qui accélère constamment le rythme des collections. À la fin des années 90, elle s'est étendue dans les années 2000, donc on s'est habillé autrement et on a produit autrement. C'est un nouveau système de production que ces grandes marques ont imposé sur le modèle de la grande distribution. Et pour que leur modèle de petit prix fonctionne, il faut qu'elles produisent en masse et en volume. Donc ça a décuplé en plus les impacts sociaux et environnementaux, sachant que la grande majorité de nos vêtements sont produits dans des pays à bas coût où les droits sociaux sont bafoués, donc beaucoup en Asie du Sud-Est, mais aussi dans le Maghreb, dans les maquiladoras en Amérique latine, en Turquie et dans des pays moins disants socialement. Il faut effectivement qu'on régule maintenant ce secteur.
Majdouline Sbai, vous écrivez à quel point d'ailleurs cette tragédie du Bangladesh vous a particulièrement marqué, vous, personnellement ?
Oui, elle a résonné aussi avec... alors évidemment, là, on parle de vies humaines et ça n'a pas de commune mesure, mais elle a résonné aussi avec l'effondrement de l'industrie manufacturière dans la région du Nord. Et d'ailleurs, quand cet accident est intervenu, il y avait un événement culturel autour des anciennes usines textiles et des ouvriers du textile qui ne sont plus aujourd'hui, ou en tout cas moins nombreux. Et c'est vrai que ça a résonné comme étant finalement les deux faces d'une même histoire. Et donc pour moi, ça a été le début de l'envie, non pas simplement d'écrire sur ce qui s'était passé dans ma région, mais c'est ce qui se passait au niveau mondial.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs depuis la catastrophe de Dakar ? Est-ce que les choses ont changé ? Visiblement pas, hein, puisqu'on entendait cette archive de l'année dernière, hein, donc c'est très très récent, avec la demande de l'augmentation des salaires. En tout cas, les conditions de travail ont changé ou pas vraiment ?
Il y a eu une évolution rapidement dans l'année qui a suivi en fait l'effondrement parce qu'il y a eu un mouvement, une indignation citoyenne d'abord très importante dans le monde entier qui a conduit aussi à une indignation politique sur le moment et à la lumière de cette mobilisation, les salariés ont obtenu de haute lutte une augmentation à l'époque de 70% du salaire. Ils gagnaient alors 28 dollars par mois, 28 euros, absolument misérable. Ils sont autour de 60-65 euros par mois désormais, mais très rapidement, donc à partir de 2014, c'était vraiment le retour du business as usual, c'est-à-dire l'activité économique a repris son activité. Il n'y a eu aucune baisse de la production au Bangladesh, ce qui n'était pas non plus l'objectif. L'idée, il y a quand même 3 millions de personnes dans ce pays qui survivent et qui dépendent de l'industrie du textile. Donc on cherche à ce que chaque travailleur partout dans le monde puisse vivre dignement du fruit de son travail et un salaire qui lui permette de vivre. On a vu une évolution dans la communication des multinationales qui effectivement aujourd'hui ne peuvent plus faire l'économie d'un discours sur leur responsabilité, parce que les ONG comme Éthique sur l'étiquette, mais un tas d'autres, mais surtout les citoyens mettent une pression sur les réseaux sociaux. Il y a un bruit très fréquent, très important sur les réseaux sociaux. Mais il y a encore un énorme décalage entre ces effets d'annonce green ou social washing et la réalité au Bangladesh qui reste que les travailleurs sont dans une grande misère. L'extrait que vous avez passé, il est essentiel parce que ça fait plus de 2 ans. Enfin, ça fait une dizaine d'années que le Bangladesh est secoué par des mouvements de travailleurs qui sont loin d'être passifs, qui cherchent à défendre leurs droits. Mais ces manifestations sont lourdement réprimées à la fois par les fabricants et par l'État sur place.
Majdouline Sbai, on dit souvent, on entend souvent que l'industrie du textile aujourd'hui est la deuxième plus polluante au monde après l'industrie du pétrole. C'est assez discuté d'ailleurs, tout le monde est loin d'être d'accord avec ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement polluant. Comment on fait le calcul ? D'ailleurs, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a énormément de paramètres dont il faut prendre compte.
En fait, si on regarde, bon, je vais citer trois chiffres qui, moi, me semblent toujours les plus évocateurs. La culture du coton pour le textile, c'est 25% des pesticides du monde. L'industrie de la mode est la troisième consommatrice des eaux d'irrigation dans le monde. Et enfin, elle émet plus de gaz à effet de serre que le transport aérien et le transport maritime international. Donc, si on prend juste ces trois chiffres, et il y en a plein d'autres, on voit l'ampleur, en fait, des impacts environnementaux. Et surtout, c'est comme on est dans une production qui est exponentielle, c'est-à-dire qui continue à augmenter dans les mêmes conditions, puisque le modèle ne change pas. On continue à chercher à produire dans des pays où il n'y a pas de réglementation, il y a peu de régulation, ni des impacts environnementaux, ni du droit du travail. Et donc, ça va continuer à s'accroître. Et c'est en ça que c'est une menace importante et qu'il faut dire à quel point c'est polluant. Et puis, je pense aussi que finalement, c'est un sujet, l'industrie de la mode et les questions des impacts environnementaux et sociaux de l'industrie de la mode est un sujet qui a été politisé très tardivement. C'est une période très récente. L'effondrement d'Rana Plaza y a contribué. Mais en France, on a vu aussi, c'est un secteur économique qui emploie plus, qui a plus d'impact que l'industrie automobile et qui emploie plus que l'industrie automobile, y compris en France. Et pourtant, ce n'est pas un sujet qu'on considère comme politique sur lequel on doit intervenir, qui fait partie des grands débats, des conférences internationales, etc. Et c'est tout récent que ce soit le cas. Et finalement, c'est les consommateurs qui aujourd'hui sont un peu à l'avance sur ces questions-là, puisqu'on voit qu'ils infléchissent leur modèle de consommation. On espère que ce sera encore plus le cas. Et puis, quelques marques, quelques entreprises, quelques ONG aussi qui portent ça.
Allez, on verra ensemble dans la deuxième partie comment on peut justement mettre en place une véritable mode éthique ou éco-responsable. On peut l'appeler de différentes manières. Il y a déjà évidemment des initiatives et vous aurez des questions à ce sujet de la part des auditeurs de la Terre au Carré. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
France Inter. La Terre au Carré.
Camille Cronier, aujourd'hui Camille, vous nous emmenez en balade avec ceux qui se présentent comme les premiers écologistes de France.
Oui, amis de la nature, d'ailleurs voici leurs animaux préférés.
La palombe, chez nous c'est l'oiseau de prédilection, la bécasse.
Le lièvre, le pigeon, le sanglier, les canards, la perdrix grise aussi un petit peu, bécasse, faisan, perdreau, ainsi de suite.
Plutôt les lièvres et les faisans.
Vous avez compris que nous sommes en compagnie de chasseurs et il y a aussi des femmes.
Moi c'est la chasse à la bécasse. C'est un oiseau qui est très intelligent, qui vient de Russie, qui va en Afrique, qui est extraordinaire et très difficile à chasser.
Alors les chasseuses et chasseurs, vous le savez, sont eux aussi objets de ce qu'on appelle bashing, un peu comme les agriculteurs, accusés de faire du mal à notre environnement. Le naturaliste Pierre Rigaud était venu ici même argumenter en présentant son livre « Pas de fusil dans la nature ». Selon lui, la moitié des 30 millions d'animaux tués chaque année à la chasse sont des oiseaux sauvages dont les espèces sont en déclin pour certains. Pierre Rigaud estime que la chasse dérégule les équilibres écologiques et il n'est pas le seul, hein, Nicolas Hulot a signé par exemple la préface, sujet très clivant. Donc, j'ai voulu savoir ce que les chasseurs avaient à répondre et ça tombe bien, ils étaient en assemblée générale il y a quelques jours.
Vous iriez jusqu'à dire que vous êtes un écologiste ou pas ?
Mais je veux que je sois un écologiste. Quand je vois que les écolos, ils achètent des territoires énormes, des zones humides et ainsi de suite, ils sont contents, ils nous piratent des espaces. Ils en font quoi après de ces espaces ? Ils en font que dalle. Vous avez une végétation.
Pour préserver la faune et la flore.
Non. Alors attendez, c'est un effet tout à fait contraire. Ils nous reprochent à nous, quand on a des espaces, de les entretenir pour avoir du gibier. C'est vrai, mais on ne tue qu'un petit pourcentage de gibier. Eux, ils font des sanctuaires qui ne sont pas entretenus et c'est complètement négatif.
Les chasseurs seraient donc indispensables à l'environnement. Phrase signée Willy Schran, président de la puissante Fédération Nationale qui enchaîne.
Aujourd'hui, on dérègle tous les écosystèmes quand on enlève la chasse. Ça ne plaît pas de l'entendre, mais c'est quand même la vérité.
Et son grand argument, c'est l'argent.
C'est des centaines de kilomètres de haies qui sont plantées tous les ans, des milliers d'arbres qui sont plantés avec l'argent de la chasse. L'entretien des zones humides, l'entretien des forêts, ça c'est 4 milliards d'euros écosystémiques d'apport à la nature.
Mais est-ce que l'argent suffit pour dire qu'on est écolo ?
Oui, on est écolo parce que quand on a chassé pendant quelques dimanches, on pose un fusil et on va s'occuper de la nature.
Autre raison invoquée régulièrement par les chasseurs, la régulation, les sangliers, les chevreuils en particulier. Et puis, ils ne tuent pas toujours. Cette fois, c'est un chasseur de la région paloise qui se défend.
Moi, je lève pratiquement 35 bécasses dans une année. Je pourrais en tuer sur 35, allez, une quinzaine. Il m'en faut 7 pour faire un repas avec les amis. Je m'arrête à mes 7 bécasses de prise, justement pour faire ce repas avec les amis. Les autres, je ne les tire plus.
Pour un autre de la Manche, l'image anti-écolo des chasseurs ne vient que des préjugés.
Il y a quand même beaucoup de gens qui donnent des leçons, qui sont en ville et qui n'y connaissent strictement rien.
Et lui en connaît un rayon en termes de protection de l'environnement.
Vous êtes exploitant agricole ?
Oui.
Vous utilisez des pesticides ?
Oui.
Du glyphosate ?
Oui, c'est sans doute le produit le moins dangereux.
Le glyphosate ?
Ah oui.
Mais est-ce que vous vous considérez comme un défenseur de la nature ?
Bien entendu. Mais je comprends que sur France Inter, vous avez du mal à entendre ça.
Allez, bim, hein, fallait bien qu'on s'en prenne une. J'ai pourtant, moi, en allant les voir, essayer de comprendre ce qui anime le million de chasseurs français, je les ai écoutés comme notre chasseuse de l'Isère.
Nous sommes des écologistes. Nous participons à la défense de la biodiversité.
Et comment on est écologiste et on défend la biodiversité en tuant des animaux ?
Eh bien, alors, d'aller tuer des animaux, ça nous permet de rentrer en connexion avec la nature.
Oui, ça peut interpeller comme réponse. Voici la suite.
Je vous dirais que chasser un animal, c'est l'aimer. C'est assez ambivalent, contradictoire, si vous voulez. C'est difficile à expliquer pourquoi on va tuer cet oiseau qui ne fait de mal à personne et qui est au contraire très intelligent, qui arrive à se soigner tout seul. Et moi, je ne peux expliquer ça en mon fort intérieur que par cet acte d'aimer cet animal, cet oiseau.
Je t'aime, donc je te tue. J'avoue avoir un petit peu de mal à comprendre, mais les chasseurs ne pourront pas m'en vouloir d'avoir essayé en leur donnant la parole.
Et donc, ils se réunissent à Paris, hein, quelques jours, Paris, oui. Effectivement. Camille Cronier, Camille Passauvert, c'est à réécouter sur franceinter.fr. Et dans un instant, on parle de mode éthique avec nos invités. Toutes vos questions, 01 45 24 7000.
She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond.
James Bond, c'était la voix d'Iggy Pop sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Bangladesh, Cambodge, t'as vu, tout est fabriqué dans le carbone. Hein.
Ouais, mais maman, tu sais, ils font tous ça.
Mais non, pas tous. Bonjour. Je connais une petite boutique qui fait du coton équitable, ils ont des ponchos ravissants.
Waouh, 212,99€, s'il vous plaît. Carte ou espèce ?
Avant de piller, je peux savoir ce qui revient exactement aux gosses qui ont fabriqué ça ?
Maman. Hein ?
Sur cette culotte, là, c'est écrit « Made in Bangladesh ». Donc j'aimerais savoir ce qui revient vraiment au Bangladesh sur les 2,99€.
Maman, t'es sérieuse, hein ?
Mais ça va, c'est pour acheter en conscience.
Bah, franchement, j'en sais rien, moi.
Voilà, extrait du film Les Bonnes Intentions de Gilles Legrand avec Agnès Jaoui, visiblement apprécié par nos deux invités, Majdou Linsbaï et Naïla Ajaltouni, qui nous parlent de mode éthique cet après-midi dans le dossier de l'émission. On va tout de suite accueillir les auditeurs parce qu'il y a énormément de messages pour vous et puis on aimerait savoir comment concrètement justement on peut mettre en place une mode éthique. Élise est avec nous en ligne au standard de la Terre au carré et vous êtes la bienvenue. Bonjour Élise.
Bonjour, merci de prendre ma question.
On vous écoute.
Je me demandais en fait, avant de se demander comment fabriquer des vêtements éthiques, vu tous les textiles qu'il y a déjà en circulation, enfin les milliards de textiles qu'il y a déjà en circulation, est-ce qu'il serait envisageable d'arrêter d'en produire complètement et de se contenter d'utiliser, réutiliser, recycler ceux qui sont déjà existants, parce qu'on nous parle beaucoup de coton bio, de choses comme ça qui utilisent malgré tout, que ce soit bio ou pas bio, énormément de ressources naturelles, notamment de l'eau. Et puis il y a autre chose qui me gêne, et c'est pour rebondir aussi sur l'extrait du film que vous venez de passer.
Oui.
Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter de la mode éthique. Et personnellement, je passe beaucoup par des vêtements qui ont déjà été utilisés par d'autres, mais qui sont en très bon état, dans les ressourceries, les Emmaüs, entre copines, on se donne aussi des vêtements. Et ça me gêne qu'il y ait quand même pas mal de marques qui sortent sur cette vague éthique et écolo pour nous vendre des vêtements, certes, sûrement plus écolo que d'autres, mais où ils se font sûrement une très bonne marge aussi, quoi.
Merci pour toutes vos questions, Élise. Elles sont hyper intéressantes. On voulait toutes les aborder, donc on y va tout de suite sur les réponses. Majdou Linsbaï, pour commencer sur la première partie.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette auditrice.
Élise,
parce que moi je pense que la solution, je l'ai dit tout à l'heure, hein, puisque le problème c'est l'économie linéaire, la solution c'est l'économie circulaire. Et donc la première chose à faire c'est d'utiliser ce qui existe déjà, ce qui a déjà été produit, qui ne nécessite pas d'exploiter des ressources naturelles, etc. pour être produit. Donc le seconde main est une solution formidable et il y a un vivier assez important, je pense, pour habiller les gens pour des décennies dans tout ce que nous ne portons pas, puisqu'on met la moitié de ce qu'on a dans notre placard, nous ne le portons pas. Donc si on était dans ce système, je dirais, où on échange, on revend, on partage, etc., on pourrait s'habiller de manière diversifiée et éviter de reproduire et gaspiller. Et puis, il y a aussi toutes les innovations au niveau du recyclage des fibres. Parce qu'à partir de fibres, on peut refaire de la fibre textile. Mmh. Et donc, si le vêtement n'est plus portable, vraiment, il est en fin de vie, il faut investir davantage sur cela plutôt que sur l'exploitation des ressources naturelles pour faire de nouveaux vêtements.
Petite parenthèse à ce sujet, on a une auditrice sur franceinter.fr qui adore faire de la couture et qui aimerait trouver des solutions, peut-être des entreprises qui récupèrent justement ces tissus ou ces bouts de fil inutilisés. Ça existe ça concrètement ou pas ?
Il y a des réseaux locaux. Ouais. Alors, je vais en citer dans la région des Hauts-de-France dont je suis issue, mais il y a des réseaux locaux, on peut trouver... alors, il n'y a pas forcément de site qui référence directement, mais je pense qu'en faisant des appels sur les sites les Repair Café, les sites d'échanges locaux, etc., on trouve des ressources de plus en plus. Il y a cette autonomie vestimentaire qui se met en place.
Alors, Naïla Ajaltouni, sur le prix, évidemment, sur le coût de cette mode éthique.
Ça coûte cher, hein, la mode éthique. Hein. Moi, j'avais vu, il y a des t-shirts à 195 €, ou même un t-shirt blanc à 40 €. C'est par rapport à un lot à 10 € chez Carrefour, je donne une marque, mais...
Et on touche là au cœur du problème, en fait. C'est que la question du prix, du coût social, du véritable coût, du véritable salaire, c'est vraiment la caractéristique de ce secteur. C'est-à-dire qu'on produit à très bas coût. Moi, je trouve la question d'Agnès Jaoui, elle est fantastique et je peux y répondre. Enfin, dans l'extrait du film, c'est entre 0,5 et 1% maximum du prix de la petite culotte qui revient à une ouvrière de Bangladesh. Donc, on a une marge considérable. On pourrait faire moins de communication, moins de publicité, ne pas la faire payer aux consommateurs. Ensuite, sur l'alternative, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le fait qu'on doit arrêter d'acheter des vêtements et qu'il n'y a pas que des personnes qui ont des bas salaires qui vont acheter en masse chez H&M, chez Zara, parce qu'on veut coller à la tendance. Il y a déjà cette rationalisation qu'on doit tous avoir. Il y a effectivement la seconde main qui se développe, les sites de revente qui permettent même maintenant d'être tendance, de ne plus aller dans les friperies à trous et à poncho, effectivement, où on peut s'habiller de manière de manière tout à fait tendance. Et il y a après l'acte d'achat sur la marque responsable. Déjà, il faut savoir que 5, 10, 15, ça n'existe pas. Le prix d'un t-shirt ou d'un jean à ce prix, ça ne devrait pas exister. On s'est habitué à ces prix, mais on a une version complètement distordue du prix. Parallèlement, quand on le peut, d'abord, les marques font un grand effort de démocratisation. Il existe, je pense à un site comme Slow We Are, qui propose un tas d'initiatives, un tas de marques qui font des efforts, effectivement, pour produire au juste prix et le vendre au juste prix aux consommateurs. consommateurs. C'est vrai que ça demande aux consommateurs d'aller chercher. Et puis, il y a aussi les choix de consommation qu'on peut faire quand on peut mettre 100 euros dans une basket, quand on peut mettre 120 euros dans une... Quand on va dans les petites marques intermédiaires hyper chères qui font fabriquer dans des conditions déplorables, on peut choisir de privilégier une marque responsable.
Allez, Christian est en ligne également avec nous. Bonjour Christian, votre question, oui, bienvenue bonjour. À vous. On vous écoute.
Alors voilà, je voulais parler de cette mode qui consiste à porter des jeans déchirés. Alors au-delà de je trouve cela stupide parce que je suis né après la guerre, j'étais d'une famille nombreuse et pauvre et on avait une obsession de porter des habits à peu près corrects et maintenant on les déchire. Alors au-delà de cette critique, je voudrais savoir ce que peut coûter l'opération de déchirer des jeans coûtés pour la planète, hein. Mmh. Déchirer des jeans qu'on vient de fabriquer.
Alors, Majdouline Zbaï, est-ce que vous avez une réponse à cette question précise de Christian? Attention.
Alors, je vais m'y mettre, hein, je vais étudier la question du déchirage des jeans. Plus sérieusement, on sait que le sablage, par exemple, des jeans, pose un gros problème environnemental. Greenpeace a mené toute une campagne pour dénoncer et agir en interpellant les marques. Globalement, c'est vrai qu'il y a dans la façon dont on produit les vêtements, parfois on crée les conditions de leur non-recyclabilité ou de leur non-durabilité.
Puis sur les jeans, il y a le problème quand même des colorants. Hein,
et juste un point là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il est déterminant que les marques, quelles qu'elles soient, les enseignes, réinvestissent la question de la façon dont on produit. Parce qu'on l'a vu, finalement, la valeur s'est répartie. On a davantage investi dans la communication, le marketing et moins dans les matières, dans par exemple les innovations en matière de recyclage, dans la durabilité des produits. Et c'est cet rééquilibrage qui doit avoir lieu.
Question de Marianne par mail. Je cherche depuis un moment des textiles écologiques, mais les fournisseurs me disent que ça n'est pas possible. Elle parle des matières textiles qui se font cultiver avec des matières chimiques, des teintures chimiques. Elle dit le textile en bambou, on m'a dit que c'était aussi traité de manière chimique. Donc elle ne sait pas où est-ce qu'elle peut trouver des textiles écologiques. Ça existe ?
Oui, ça existe. Alors, on arrive aujourd'hui à avoir des certifications et de la labellisation précisément jusqu'à la fabrication du tissu, donc de la fibre jusqu'au tissu, Cotobion, Équitable, certification GOTS, etc. Donc là, il y a un site comme l'ADEME, par exemple, qui peut aider à s'y retrouver dans les labels. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de label social sur l'ensemble du coût de la fabrication. Et pour répondre à l'auditeur d'avant, ça coûte pas grand-chose, en fait, de déchirer un jean. Ça coûte les mêmes conditions de travail au Bangladesh, en Turquie, etc. Et c'était le collectif Éthique sur l'éthique qui avait travaillé sur la question du sablage des jeans. En fait, la conséquence, elle est surtout sociale pour les travailleurs, mais elle a un faible impact écologique, si ce n'est qu'elle va chercher du sable depuis les plages, quoi.
Stéphanie, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Oui, merci. Voilà, j'avais une question. Je suis maman d'une jeune adolescente hein, qui va bientôt avoir 13 ans et qui était très friande de mode. Et alors quand je lui explique un petit peu les dégâts écologiques que ça peut causer, enfin les dégâts sociaux, j'ai un peu l'impression de prêcher dans le désert.
Et maman, t'es lourde.
voilà, si ça pouvait passer collectivement, enfin par les collèges, les lycées, qu'il y ait un message qui soit un peu adressé collectivement à tous ces ados qui sont vraiment des panneaux publicitaires pour les grandes marques. Hein. Enfin, il faut voir la sortie d'un collège. Ils sont pas comment dire, ils sont vraiment la cible de ces grandes marques et en fait l'alerte sur les dégâts écologiques et sociaux ne parvient pas jusqu'à eux. C'est-à-dire que c'est un peu individuellement les parents qui leur disons et qui passons pour des rabat-joie, mais il n'y a pas de voilà. Enfin, des fois je me dis s'il y avait des conférences organisées au sein des collèges, des lycées là-dessus pour les alerter parce que ils sont pas.
Alors Stéphanie, nos invités veulent vous répondre là-dessus justement.
Alors on le fait, le collectif Éthique sur l'étiquette à une vingtaine de collectifs locaux de militants qui font ce type d'intervention en milieu scolaire. On a produit aussi des outils qu'on peut trouver en ligne qui s'adressent aux jeunes, aux étudiants. Puis j'en appelle aussi là à la responsabilité des pouvoirs publics. C'est-à-dire que les ONG, les citoyens seuls ne peuvent pas tout non plus. Et de la même manière qu'on a cherché à faire adopter une loi sur le devoir de vigilance pour réguler les multinationales, on cherche aussi à réguler la communication et que les pouvoirs publics intègrent ces questions aussi dans les programmes officiels.
Très vite, dernière question de Céline qui a entendu parler des textiles issus du plastique recyclé qui rejetterait à chaque lavage des micro-particules de plastique. Est-ce que c'est vrai ou faux, Majdouline?
C'est vrai, c'est 50 milliards, l'équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique rejetées dans les océans chaque année à cause de ces microfibres. Mm-hmm. Et donc, c'est des chiffres de la Fondation Ellen MacArthur. Ouais. C'est vraiment très important de privilégier d'autres matières que les synthétiques et d'utiliser éventuellement des outils qui existent, hein, comme des goopy bags, etc., pour protéger l'eau.
En tout cas, il y a beaucoup d'éléments de réponse dans cet ouvrage, hein, que vous publiez, Majdouline Zbaï, qui s'appelle « Une mode éthique est-elle possible ?» publié chez Rue de l'Échiquier. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues aujourd'hui. On aura l'occasion évidemment dans l'émission de reparler de ce sujet. Juste après les infos, le feuilleton de la semaine avec un nouveau portrait de jeunes Européens engagés pour l'environnement.
La Terre au carré.
Des chauves-souris, Camille, pour remplacer les produits phytosanitaires. C'est une super idée,
c'est
ça, non?
C'est une bonne idée, ouais.
Bon, c'est un projet. En tout cas, on va en parler dans un instant dans vos solutions pour la planète avec Olivier, un auditeur spécialiste, justement, des chauves-souris. Et puis, notre invitée découverte est la navigatrice Marie Tabarly, qui parcourt le monde à bord du voilier de son père, Eric, pour une expédition autour du développement durable. Caroline Gillet, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Toute la semaine, votre série de portraits avec ces jeunes militants écologistes. Et après Londres et l'Allemagne hier, on part pour la Normandie.
C'est ça, on va rencontrer Émilie à Villedieu-les-Poils, une jeune agricultrice écolo de 31 ans qui a repris l'exploitation familiale avec son frère en 2015. Elle raconte comment ses parents ont décidé de passer au bio en 98 pour limiter l'impact sur l'environnement. Elle s'inquiète plus particulièrement à cause du glyphosate.
Là, sur le champ à notre gauche, en fait, on voit des restes d'un couvert végétal. Donc en fait, suite à la récolte de maïs à l'automne dernier, le producteur a semé de la moutarde, je pense. Puis, il y a un mois à peu près, il est passé avec un outil pour enfouir la moutarde dans le sol, ce qui est une très bonne chose, parce que ça apporte de la matière organique au sol. Et malheureusement, il y a 15 jours, il est venu, ou il y a une dizaine de jours, il est venu avec son pulvérisateur y mettre du glyphosate. Et voilà, alors c'est assez controversé. Moi, je pense vraiment que c'est pas bon pour notre santé. Je fais d'ailleurs partie des pigs, les pisseurs involontaires de glyphosate. J'ai fait tester mon urine. Et ce que je me rends compte que j'ai un taux de glyphosate qui est à 1,74 nanogrammes par litre. Alors, est-ce beaucoup, est-ce pas beaucoup? C'est difficile puisqu'il n'y a pas de normes réelles. Maintenant, la dose dans l'eau, c'est 0,1 nanogramme par litre. Je considère consommer à 80% bio, entre ce que j'achète à la maison et je mange un petit peu à l'extérieur quand même. Et donc je me dis que moi, avec mes consommations, de me retrouver avec un taux si élevé, eh ben ça fait assez peur. Ouais. Où je peux attraper tout ce glyphosate, vu mes consommations, je ne sais pas.
Émilie vient de restructurer son poulailler pour répondre aux exigences du bio.
Les petits poulets qui sont libres d'aller dehors, donc ceux-là, ils ont 2 mois. En fait, à 3 semaines de vie, on commence à ouvrir une petite trappe à l'arrière pour qu'ils puissent commencer à crapahuter à l'extérieur. Et puis, quand ils sont un peu plus grands, qu'ils sont bien emplumés, on ouvre les trappes vers l'extérieur. Voilà. Où là, ils sont libres d'aller et de venir. Là, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, donc ils sont plutôt à l'intérieur. Les poulets ont peur du danger qui vient du ciel, c'est-à-dire les oiseaux, les rapaces. Moi, j'ai peur d'autre chose, c'est plutôt le renard qui nous a fait une petite visite samedi dernier. Et la surprise n'était pas très sympa avec 80. Sur le lot de 260 poulets, il y en avait 80 sur le carreau samedi dernier.
Bon, la prochaine fois qu'il y a un renard, il faut courir plus vite, hein.
Je demande à Émilie si, à son échelle, elle a remarqué le changement climatique.
Les parents, entre 76 et 2015, ils ont vécu 2 années de sécheresse. C'est-à-dire 76, l'année de leur installation, et 2003. Nous, on a vécu 4 étés. 2015, très sec. 2016, très sec. 2018, très sec. 3 sécheresses en 4 ans, en 4 étés. Ça fait peur un peu, hein. Ça questionne. Savoir comment on va lutter contre ça. Le truc, c'est que ça va tellement vite que la nature n'a pas le temps de s'adapter, quoi.
Le père d'Émilie militait pour la FNSEA et puis il est passé à la Confédération Paysanne, où il a travaillé longtemps avec José Bové. Émilie, elle, n'est pas syndiquée.
Je suis plutôt engagée au niveau du réseau bio en Normandie, où là je passe un peu de temps quand même avec ce réseau.
Maintenant, le réseau est plus là, lui, pour garantir en fait le label bio et donc les critères d'éligibilité au bio qui sont communes à toute l'Europe et qui, par le biais des lobbies et des grosses entreprises, pourraient avoir tendance à s'alléger vu le vent en poupe que le bio a aujourd'hui. Donc moi, je pense pas que ça soit une bonne idée de construire des poulaillers de 12 000 poules à tout va, parce qu'on arrive, on va se retrouver en bio. C'est ce qui se fait, hein. Quand on se retrouve avec 12 000 poules dans un poulailler, faut pas rêver. Elles vont pas toutes à l'extérieur et on arrive dans un système qui va être totalement identique. En fait, c'est de la bio-industrielle. On va se retrouver avec des surproductions et donc avec des chutes de prix. Et c'est les producteurs qui vont se retrouver une fois de plus dans la mouise, pour le dire gentiment.
Voilà, quelques jours après notre rencontre, j'ai rappelé Émilie. Avant de raccrocher, Émilie m'a fait écouter un petit veau qui était en train de téter.
Maintenant, je vais les mettre dehors, les vaches, parce que Flavie va vêler ce soir.
Elle m'avait promis une nouvelle vidéo en arrivant au champ ce matin, avec le verdict « naissance ou pas naissance ».
Eh bien, salutations de la pluie normande et de sa campagne. Voilà, alors Flavie est face à nous. Et on voit une petite boule rouge à côté d'elle.
Salut toi. Ouais. Alors, petit mâle, petite femelle. Petit mâle. Bonjour mon bonhomme, t'es joli comme tout, dis donc. Voilà qu'on te trouve un joli nom.
Alors Caroline, est-ce que tout va bien pour ce jeune veau dont on apprenait la naissance à la fin de votre reportage là ?
Absolument, et du coup, figurez-vous que je suis devenue la marraine.
Wow,
oui, on m'a demandé de choisir son prénom, il fallait quelque chose qui commence par P et il s'appelle Prince.
Bravo !
Voilà.
Voilà, on retourne demain rencontrer ces jeunes gens que vous avez croisés, ce sera le dernier portrait de la semaine d'ailleurs.
Merci Mathieu.
À demain.
France Inter, la Terre au carré, vos solutions pour la planète.
Ne vous inquiétez pas Camille, vous aussi un jour vous serez peut-être marraine d'une chauve-souris, qui
sait. On ne sait jamais.
On va en parler avec Olivier qui est avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue Olivier, vous êtes avec nous pour nous parler d'un projet autour des chauves-souris, car vous êtes chiroptérologue, spécialiste donc de ce petit mammifère, et ce projet s'appelle Batviti Batman. Racontez-nous d'abord quelle région il concerne exactement, parce que c'est à la fois un projet scientifique, pédagogique, vous essayez de tester les choses et c'est assez passionnant je dois dire.
Donc ce projet est autour de la région du Sud-Ouest, notamment sur deux départements, puisque c'est un projet que porte le Conservatoire d'espèces naturelles en partenariat avec les chambres d'agriculture de Dordogne et de Lot-et-Garonne, deux départements voisins qui possèdent deux AOC en fait, Mont-Basillac et Côte de Duras, puisqu'on est parti sur une problématique qui était liée aux vignes et aux ravageurs de la vigne, et donc voilà, sur ce territoire viticole.
Et qu'est-ce qu'elles viennent faire là-dedans, les chauves-souris, alors, exactement ?
Eh ben, donc les chauves-souris, comme tout le monde le sait, ou en tout cas la grande partie, elles sont des mammifères qui vont se développer la nuit, en tout cas se déplacer par rapport à leurs mœurs et notamment se nourrir de beaucoup d'insectes, et dont un petit papillon qui s'appelle le Denis, qui est un ravageur des vignes, qu'on appelle aussi le ver de la grappe, et qui pose des gros soucis en transmettant une petite pourriture sur les grains de raisin.
Et donc les chauves-souris les attaquent, enfin les mangent la nuit, ça serait donc plus efficace qu'un pesticide ?
Alors, c'est vrai que là, la question qu'on a beaucoup aujourd'hui au niveau du monde agricole, c'est la réduction des produits phytosanitaires. Mmh. Et les viticulteurs qui observaient un peu les vignes en soirée ont constaté qu'il y avait un balai de chauves-souris, notamment au-dessus des vignes. Ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'elles y faisaient, ces chauves-souris ? Et est-ce qu'elles s'attaquaient effectivement à ce petit lépidoptère qui leur pose beaucoup de soucis ?
Alors du coup, Olivier, vous avez engagé, je crois, depuis 2 ans, c'est ça, ce programme Batviti, pour 5 ans, et c'est quoi, 5 ans d'observation justement sur la capacité des chauves-souris à pouvoir présenter une alternative intéressante aux pesticides ?
Donc le constat de base, c'était de savoir déjà quelles espèces de chauves-souris fréquentaient ces vignobles. Mmh. Donc pour ça, on a mis en place tout un protocole avec des écoutes ultrasonores sur les vignes. et où il y a à peu près 19 espèces qui ont été contactées. Donc il y a 35 espèces en France, ça veut dire qu'il y a à peu près les deux tiers qui sont potentiellement des prédateurs au niveau des vignes. Et donc ça, c'était la première étape. Et ensuite, ça a été de cibler plutôt les espèces qui vont s'attaquer à l'Eudémis en analysant le guano par une méthode ADN et de savoir un peu quelles espèces allaient consommer cet Eudémis. Et donc pour ça, on a dû aller rechercher les colonies de parturition, donc d'élevage des jeunes, donc puisque les chauves-souris, elles ont un cycle un peu particulier, ce sont les femelles qui se regroupent et qui mettent au monde les jeunes seules en dehors des mâles. Et donc là, on a prélevé du guano et grâce à l'INRA, on a pu détecter, notamment pour deux espèces, donc la pipistrelle et le petit rhinolof, la présence d'Eudémis dans ses crottes.
Voilà. Olivier, c'est quoi, oui, le guano? C'est les crottes, oui, mais je voulais juste avoir confirmation.
C'est le caca donc, qui voilà. Sent pas bon du tout.
Voilà, ce sont des petites crottes, on appelle ça guano, comme pour certains oiseaux marins, donc ce sont des petites crottes noires de la taille d'un grain de riz.
D'accord.
Mais alors ça fonctionne bien parce qu'il faut quand même qu'elle mange beaucoup de ces papillons pour arriver à remplacer des pesticides, Olivier, ces chauves-souris.
Alors justement, le projet sur 5 ans doit nous permettre à avoir à peu près la quantité et en tout cas l'effet direct sur les vignes. Après, ça va être aussi de favoriser en fait ces chauves-souris au sein des vignobles, puisqu'on connaît un peu leur mode de déplacement et les gîtes qu'elles utilisent. Et c'est vrai que l'étude va permettre là d'aller un peu plus loin dans l'analyse paysagère et l'accompagnement des viticulteurs sur peut-être de l'aménagement du territoire en travaillant sur l'arbre, la haie, l'effet lisière, puisque les chauves-souris vont se déplacer dans le paysage grâce à ces corridors. Mmh. Et plus il y aura de corridors, plus il y aura de chauves-souris et plus il y aura d'impact directement sur ce petit ravageur qui est l'Eudémis.
Et Olivier, les viticulteurs, ils sont contents d'avoir des chauves-souris parce qu'elles peuvent, j'imagine, faire des dégâts par ailleurs. Et puis surtout, elles n'ont pas forcément une très bonne image, les chauves-souris, malgré leur côté Batman.
Alors du coup, justement, le lien avec tout ça, c'était de travailler avec les écoles et les collèges, donc deux collèges, le collège de Duras et de Bergerac, sur un projet pédagogique pour justement sensibiliser les plus jeunes sur la question de ce mammifère nocturne qui a souvent des mythes et des légendes qui sont peu reluisants. Et du coup, de montrer que c'est un prédateur, donc qui a un rôle important dans la chaîne alimentaire, qui s'attaque à énormément d'insectes. Et qui est protégé, donc c'est aussi voilà, toutes ces espèces sont protégées et ont un rôle important, notamment aujourd'hui on parle beaucoup d'insectes qui arrivent émergents avec des espèces qui viennent d'autres continents ou d'autres pays, et donc ces prédateurs ont un rôle assez important dans nos paysages.
Donc vous allez redorer l'image en même temps de la chauve-souris et la protéger, hein, parce que il y a plein de pistes finalement dans ce projet.
Tout à fait, c'est assez large et ça permet justement de sensibiliser à la fois des gens qui ont une activité économique et qui ont besoin de la biodiversité, les habitants du territoire et puis aussi tout un cortège de personnes qui n'étaient pas forcément au fait de l'intérêt de ces chauves-souris dans nos territoires.
Les premiers résultats sont intéressants, ça fait 2 ans que ça a commencé, hein, je crois, Olivier. Vous avez déjà finalement satisfaction sur la capacité des chauves-souris à boulotter les papillons envahisseurs?
En tout cas, on voit qu'il y a quand on mène les études sur le terrain, on voit qu'il y a énormément de chauves-souris justement qui chassent au-dessus des vignes. Là, c'est de travailler aussi par rapport aux périodes d'émergence de l'Eudémis, en fonction aussi du cycle de vie de la chauve-souris, est-ce que c'est corrélé ou pas. Et puis de travailler aussi avec les viticulteurs sur leur bâtiment, leur chais et la pose donc de gîtes à chauves-souris en complément. Mmh. Et donc c'est un travail vraiment sur du long terme et puis d'observation, énormément d'observation. Et c'est vrai que les viticulteurs qui sont tous les jours sur le terrain nous apportent pas mal de renseignements.
Ça vit longtemps une chauve-souris, Olivier ?
Alors, on a quelques études, notamment pour nos collègues allemands ou d'Europe de l'Est, qui baguent encore les chauves-souris. Et je crois qu'on a des espèces comme le grand murin qui peuvent aller jusqu'à une quarantaine d'années.
Ah, pas mal.
Ah, oui.
Merci beaucoup, en tout cas, Olivier, pour toutes ces infos. Ce projet s'appelle Bat Viti Batman. Merci d'être venu nous en parler cet après-midi dans la Terre au Carré. Et si, comme Olivier, vous avez aussi, vous aussi, votre solution pour la planète, eh bien, vous pouvez nous contacter. Et c'est Chantal Le Montagnier qui vous repassera un petit coup de fil. Vous allez sur le site de l'émission France Inter.
Elle est super sympa, vous verrez.
Mais oui. Marita Bardi dans un instant, navigatrice, pour nous parler de son tour du monde humaniste.
bouche. Si on peut ce soir effacer le carton, 3 millions d'entrées, simplement dire ce qui nous touche. Si on peut vivre comme Agnès, se parler à deux dans la pièce et ressentir une émotion. Si on peut vivre une vie Varda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition. Si on peut regarder ailleurs, pas le clash, pas les chroniqueurs, quelquefois chercher l'élégance. Si on peut trouver la beauté, un visage par le temps froissé, dans la nuit, un danseur qui danse. Si l'on peut vivre comme Agnès, se parler à deux dans la pièce et ressentir une émotion. Si on peut vivre une vie Varda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition.
Varda, c'était Vincent Delerme.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Le premier bateau que j'ai eu s'appelait Pendik. C'est pas moi qui ai trouvé le nom. Et puis, je l'ai gardé puisque, au fond, c'est un nom qui sonne pas mal. Ça va bien, je trouve, pour un bateau. Pendik, c'est du breton. C'est le nom de la mésange à tête noire. Littéralement, ça veut dire petite tête noire. Pen, c'est tête, du, c'est noir, et X, c'est le diminutif pour petit.
Bonjour Marie Tabarly.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue à vous, c'était la voix d'Éric Tabarly, votre père. Vous êtes vous-même navigatrice et vous faites escale à la Terre au carré pour nous parler de votre tour du monde humaniste et environnemental. Ce projet s'appelle Élémentaire en deux mots. Et depuis juillet 2018, vous êtes donc lancé dans une expédition un petit peu particulière. Vous rentrez tout juste des Açores, après le Groenland et l'Islande. De quoi il s'agit alors finalement ce projet? C'est quoi?
Il s'agit de partir avec Pendik 6, donc un grand ketch de 22 mètres.
Un grand ketch?
Ouais,
c'est
deux mâts.
Qu'est-ce que c'est un ketch?
Ça veut dire que c'est un bateau avec deux mâts, ouais. Et le mât d'avant est légèrement plus grand que celui de l'arrière. C'est de la goélette, comme Pendik 3. Et en fait, Pendik 6 a la particularité déjà de pouvoir aller partout autour du monde, et surtout de pouvoir avoir 14 personnes à son bord. Et du coup,
c'est un 22 mètres, hein,
ouais,
c'est ça.
22 mètres, 25,
ouais,
34 tonnes.
C'est un beau bateau.
Oui,
hein.
Ça reste du,
ouais,
ouais,
c'est
ouais.
Du costaud quand même.
Ouais. Bah heureusement, puisque vu en plus les conditions météo qu'on affronte des fois, c'est agréable d'être avec ce bateau-là. Quoi.
Ouais.
On est très bien. Et en fait, je m'étais dit que avec ce bateau-là, je pouvais aller explorer un peu le monde, mais surtout l'humain. Et je voulais en fait inviter des artistes, des sportifs, des chefs d'entreprise, des économistes, des politiques. Et aller à la rencontre du monde via le développement durable. Donc en fait, on faisait un gros bateau pour créer du lien face aux grands défis de l'humanité. Et du coup, aller les voir un problème dans son ensemble, du coup avec un aspect environnemental, un aspect économique et un aspect social.
Donc ça, c'était l'idée sur le papier, hein, quasiment, ouais, que vous avez pu donc vraiment réaliser, puisque là, on en est déjà à la troisième escale, donc c'était les Açores, vous rentrez tout juste. Alors l'idée, c'était d'inviter qui à bord de ce bateau, alors?
Cette année, c'était donc le thème déjà, parce qu'on a une thématique. En fait, aucune escale ne se ressemble. On change d'invité, on change de pays, et donc on change de thématique. Cette année, c'était une escale qui était un peu plus scientifique, parce que la question, c'était l'exploration est-elle vectrice de progrès. Et en créant l'escale l'année dernière en retour d'Islande, on se dit il y avait beaucoup de grottes, il y a des sous-marines, il y a des volcans, donc si on va sous terre, bah, par opposition, avoir des spationautes avec nous, ce serait génial.
Ouais.
Et la vie a fait que, en rentrant, on arrive à rencontrer deux spationautes, Jean-François Clairvoy et Jean-Jacques Favier, qui nous disent immédiatement oui, on vient, et bah voilà, on est allé naviguer avec la tête, avec des gens qui ont la tête dans les étoiles.
Donc vous naviguez avec eux, et puis en plus, il y a des escales, hein, finalement, pour permettre aussi, là, d'échanger, de discuter. Et qu'est-ce que vous faites, alors, de tout ça, finalement?
De tout ça, après, on fait des documentaires, on a beaucoup de photos, j'écris beaucoup aussi, et surtout, après, on fait des courts-métrages. Et cette année, on était un peu plus long, parce qu'on est quand même allé sur du 10 minutes. Et ce qu'on a fait, par contre, c'est que maintenant, on fait en plus du podcast et on rend des interviews très longues, parce qu'on va jusqu'à une heure et demie d'interview pour laisser vraiment les gens parler et avoir un contenu très global, quoi.
Mais l'idée, est-ce que c'est simplement de faire, entre guillemets, une croisière entre vous, et donc d'échanger entre vous? C'est également d'échanger avec la population, les populations locales.
En fonction des escales, oui. Fonction des escales, oui, mais du coup, aux Açores, on a surtout échangé avec les scientifiques locaux de l'université d'Horta. On est surtout allé voir la faune sous-marine. Au Sénégal, par exemple, l'année prochaine, ce sera complètement différent, parce que là, on va plus sur l'étude d'une culture, enfin surtout d'une langue. Et donc là, on s'axe sur la francophonie. Après, on pourrait avoir exactement le même truc sur la langue plutôt anglaise. Et donc les grandes communautés. Donc là, on va aller voir les gens et l'histoire et le
futur. Au Groenland, c'était le cas d'ailleurs. Vous avez beaucoup discuté avec la population sur le changement climatique par ailleurs.
Ouais, c'est ça. Et surtout sur leurs conditions de vie et Islande beaucoup moins. Donc je peux pas me forcer à dire tiens, on va faire ça, la même thématique sur chaque escale, quoi.
Tout change à chaque fois. Bien sûr. Vous dites qu'il y a des politiques également à bord.
On a eu Nicolas Hulot cette année qui est resté une grosse semaine avec nous. Et après, si on parle des politiques étrangères, l'année prochaine, bah, surtout quand on sera au Sénégal ou même après quand on sera au Brésil, voilà, c'est dès que c'est des gens qui peuvent nous apporter une lumière, une connaissance sur notre thématique, on les accepte avec plaisir. Ouais.
Alors pour Hulot, c'était particulier parce qu'il a connu votre père quand il était assez jeune d'ailleurs.
Hein. Même ça, je savais pas du tout en fait.
Quand il était jeune photographe, il a donc photographié votre père. Et donc là, on va l'entendre, extrait justement d'un des sujets que vous avez tourné avec lui à l'occasion de cette escale aux Açores.
Il y a une partie de nous que nous n'avons pas suffisamment explorée, c'est l'esprit. Et qu'avant d'aller chercher sur la Lune des bouées de sauvetage, regardons en nous ce qui dysfonctionne. Comprendre pourquoi, justement, nous sommes victimes de notre trop grand succès. Et c'est cette partie-là qu'il faut essayer de domestiquer. Voilà. C'est plutôt vers ça, à mon avis, qu'il faut. L'exploration, les choses à découvrir, on en aura toujours. Mais l'urgence, là, pour les décennies qui viennent, peut-être en tout cas pour le siècle qui vienne, c'est dans ce sens qu'il faut explorer. Comment, pardon d'employer des trucs qui peuvent paraître totalement neuneux, mais qui sont essentiels, miser sur l'amour plutôt que sur la haine. Voilà. Donc, dit autrement, la prochaine révolution à laquelle on doit aboutir, c'est pas une révolution technologique, pour moi, c'est une révolution de l'esprit.
Voilà, Marie Tarbardi, ça fait partie donc des propos qu'on peut suivre sur vos podcasts précisément. On peut déjà d'ailleurs les consulter.
Je viens tout juste de rentrer de
mer. Ah oui, il faut faire le montage maintenant. C'est vous qui allez le faire aussi?
Sur les podcasts audio, oui, je pense une grande partie. Ouais. Mais en fait, il y a des moments où on est en mer, par exemple, où Jean-Jacques Favier, lui, est parti avec nous de Lorient jusqu'à Horta. Donc on a navigué 8 jours avec lui, et donc 8 nuits. Et pendant les quarts de nuit, on parle et on échange beaucoup. Et c'est un contenu qui est incroyable, mais qu'on peut pas filmer parce qu'il fait nuit. Donc et du coup, tout ça, on a enregistré. Et voilà, c'était notre première fois. Donc on est en train de tout dérocher, de tout mettre en de compiler. Et je pense que ça va être vachement, très sympa. Ouais.
Est-ce que votre père vous a beaucoup parlé d'environnement? Est-ce qu'il vous a sensibilisé à la question? Est-ce que c'est de lui que finalement cette idée est partie ou pas du tout? Non.
Pas du tout. Il faut remettre les choses. Déjà, moi, il est mort quand j'avais 13 ans, 14 ans. C'est à l'époque, on n'en parlait pas. Enfin, il n'y avait pas de années 90. On n'en parlait pas plus que ça. En fait, il m'a appris à être dans la nature, à grandir dans la nature, à regarder la nature, ça beaucoup. Mais jamais avec ce propos
il y avait le
d'urgence.
Commandant Cousteau, il y avait par exemple le commandant Cousteau quand même qui en parlait.
Il y a eu Cousteau, il y a eu Aroutazieff, il y a eu Paul-Émile Victor, il y a quand même des gens qui ont porté
mais
l'environnement. Hein,
c'était pas aussi appuyé que c'est pas aussi urgent et appuyé que les propos de maintenant. Quoi. On n'est pas dans la même période. Quoi.
On va écouter la voix du journaliste Daniel Gilles qui parle justement de votre père et de vous, Marie Tabarly.
Au début, il n'était pas question qu'il y ait d'enfants parce que c'était quelqu'un qui était complètement logique. Hein. Il disait, si je mets un enfant au monde, je suis responsable de lui. Compte tenu de ce qui se passe autour sur ce globe qui n'arrête pas de se détruire, de faire la guerre, de détruire l'environnement, c'est prendre un risque considérable que d'avoir un enfant, donc je n'en aurai pas. Et donc là-dessus, bien sûr, il a un enfant, après son mariage avec Jacqueline, et là, il devient un père comme un autre, mais surtout un père très, très attentif à sa fille qui grandit, et je pense que la meilleure preuve qu'on peut peut-être apporter, c'est que de son vivant, il a légué Pendwick à Marie.
Et voilà, et donc vous êtes à nouveau à votre tour sur ce bateau, Pendwick 6, en l'occurrence ce monocoque qui va vous emmener encore pendant de très nombreuses années. Comment vous partagez votre temps entre votre passion pour les chevaux et la navigation, justement, Marie Tabarly?
On essaye de partager.
Vous n'emmenez pas de chevaux à bord, en tout cas, encore. Hein.
Non, ça se partage pas vraiment. C'est des choix de vie, quoi. C'est soit je me consacre à fond à mes chevaux, soit je me consacre à fond au bateau.
Ouais. Donc là, c'est le bateau pour l'instant. Hein.
Pour l'instant, c'est le bateau. Ouais. Et puis, j'ai déjà fait des 2-3 allers-retours comme ça, cheval, bateau, bateau, cheval. Ouais. Donc, voilà.
Vous repartez bientôt, là, parce qu'on a Dominique par mail qui nous signale et qui nous rappelle que Greta Thunberg est à la recherche d'un bateau pour traverser l'Atlantique dans l'autre sens.
La COP 25
n'aura pas lieu au Chili, mais finalement à Madrid, en Espagne, à partir du 2 décembre. Elle le dit encore, hein, elle est sur la côte Est, elle attend, là. Elle fait
aller chercher Greta Thunberg, Marie Tabarly, quand même.
On a pensé, mais on a su ça cette semaine. On vient juste de rentrer, le bateau est désarmé, on est à Lorient, ça nous ferait repartir, c'est plus cohérent. On était aux Açores, on avait la moitié du chemin qui était fait, c'était parfait. Mais là, maintenant, ça
merci beaucoup, en tout cas. Elementaire.earth. C'est le site pour aller voir ce que vous faites.
Site.
Et puis les réseaux sociaux.
Ah, surtout,
pour vous suivre dans vos aventures. On met tout ça sur le site de la Terre au Carré. Merci beaucoup, Marie Tabarly, d'être passée par chez nous.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt. Au revoir.